La première,
des Belges bien barrés.
Jean-Marc Panis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode des Belges bien barrés. Aujourd'hui, c'est un pilier du non-sens made in Belgium que nous accueillons. Il a donné ses lettres de noblesse à la déconne faite art dans le grand livre d'histoire du PAB, le paysage audiovisuel belge. Lollipop, les imbuvables, la semaine infernale, le jeudi dictionnaire, on ne compte plus les jalons qu'il a posés dans notre histoire du rire qui ose tout, avant qu'il n'aille dynamiter les plateaux français, si friands de notre humour particulier. Philippe Gueluc est parmi nous, mais safety first, on démarre avec une mesure de sécurité sanitaire.
Tu arrives avec ton masque, mais on a un truc comme ça.
Mais non.
Ah ouais, 36,7, c'est bon. Tu peux rester.
Alors ça, c'est vraiment dingue. En direct, je viens de me faire prendre la température par Philippe Gueluc. Et lui, il a combien? Ah, 36,6. Ah, 36. Il refroidit à vue d'œil.
Moi, je suis frais comme un garçon.
Il n'y a pas à dire, ça fait plaisir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous.
Il soigne bien. On voit qu'il a fait de la télévision, Philippe Gueluc. Il soigne bien ses entrées de chant.
Oui, surtout à la radio, c'est important. La présence visuelle à la radio est dans la tête de l'auditeur. Mais il faut savoir si celui qui parle est à gauche du poste, ou à droite, ou de dos, ou de face.
Mission impossible, quoi.
Non, parce que regarde, si je me mets... Voilà, là, je me mets de dos et on m'entend moins. Je me suis mis de dos et on m'a moins entendu dans le micro. Donc on peut se rendre compte. Il y avait dans le temps, quand j'étais petit, c'était fabuleux, les dramatiques radio, ça n'existe quasiment plus. Et c'était des pièces de théâtre ou des textes spécialement écrits pour la radio, comme ça, qui étaient joués par des comédiens. Et c'était Roger Simons, qui était un grand réalisateur radio, qui avait notamment mis en onde les Trois Mousquetaires. Et j'adorais ça, parce qu'il y avait le bruit des chevaux, il y avait les duels à l'épée, et avec le cliquetis du métal. Et moi, évidemment, je me faisais un cinéma incroyable. J'avais lu le roman de Dumas, et puis d'entendre en vrai... Les gens, c'est comme quand... Enfin, après, je suis peut-être parti sur plein de choses et...
C'est un peu le principe. Je dis pas qu'il faut raconter n'importe quoi, loin de là, mais l'idée, c'est quand même une entrevue, entre sons, entre... Tiens, complètement libre. Donc vraiment, moi, parce que Gueluc, il a quand même beaucoup parlé dans sa vie, beaucoup des choses. Donc moi, je suis vraiment... j'ai quand même préparé quelques questions, parce que je ne suis pas complètement venu les mains vides, mais je suis ouvert. Et justement, ça m'intéresse, c'est de se laisser aussi porter... Oh,
Je poursuis donc sur la mise en onde des Trois Mousquetaires, Roger Simons. C'était fabuleux d'entendre parler les personnages que j'avais lus parler.
Je suis désolé, je vais devoir vous faire arrêter ainsi que votre compagnon.
Mais je ne connaissais pas le son de leur voix. Et puis, c'est arrivé aussi quand il y a eu le premier Tintin au cinéma. Non, le premier, c'était Le Mystère de la Toison d'Or. C'était un film avec des acteurs. Et il y avait un jeune, et c'était un mec, je crois, il était prof de gym, qui a joué le rôle de Tintin. Et quand j'étais môme de voir Tintin, mon héros personnel, dévoré dans les quelques albums qu'on avait, incarné par un être humain, au cinéma, pour moi, c'était lui, Tintin.
Alors, capitaine, les nouvelles sont bonnes ?
Une lettre d'Istanbul.
Hein ?
Et des années plus tard, j'avais déjà, je crois, deux décennies de carrière dans les pattes, je l'ai un jour croisé dans le monsieur qui est Talbot, je crois, Jean-Pierre Talbot, qui jouait le rôle au cinéma, et on s'est retrouvé dans un avion Bruxelles-Genève. Et il est venu un petit peu rosissant vers moi pour me demander un autographe et me demander de lui dessiner un chat. Et moi, j'étais tout tremblant parce que j'ai vraiment eu le sentiment que c'était Tintin qui venait me demander un autographe personnellement. Ça m'a beaucoup impressionné.
Il est passé où, Philippe Gueluc ?
Une envie urgente.
Bah alors, Philippe Gueluc, qu'est-ce qu'il... Il s'en va pisser, alors. La prochaine fois, il faut qu'il vienne avec sa litière.
C'est votre vrai nom ?
Oui, ça peut pas s'inventer un nom comme ça. Si, mais pour les, si j'avais fait carrière en Flandre ou en Hollande, j'aurais pu choisir le prénom Geluk, chance ou bonheur. Mais nous, non, c'est le. Et alors, c'est pas les étymologistes, je sais plus comment ils s'appellent, les gens qui font des études sur l'origine des noms de famille. Et il y a un mec français assez connu qui a travaillé sur mon nom. Et il est remonté en Hollande, évidemment, on se doute que c'est de là que ça vient, de l'allemand, mais c'est passé par la Hollande. Et il est remonté au XVIIe siècle, je crois. Et il s'est retrouvé sur les traces des plus lointaines origines du nom de famille Geluk. Et ça se situe dans un village qui s'appelle, je te le donne en mille, Kattendijk, la digue des chats. Et donc, ma famille est originaire de ce village-là. Un jour, je vais m'y rendre en pèlerinage pour aller...
C'est pas encore été fait.
Non, j'ai pas encore fait, parce que voilà, on se voit plus depuis 3 siècles, donc c'est... voilà, ils sont assez lointains, si tu veux. Mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas encore un très vieux Geluk là-bas qui se souvient de quelque chose à propos des chats. Quelques années, j'avais un jour dit, mais bien avant qu'on ne parle de dérèglement climatique à ce point-là, j'avais dit, parce que forcément, chaque vie qui commence va s'achever. Et donc, nous sommes tous... J'avais dit, j'ai l'impression d'être dans un train fou qui roule vers un précipice. Il n'y a plus de conducteur, il n'y a plus de frein, le train fonce. Et on sait qu'on va tomber dans le précipice. Ben, ça, c'est une image de la vie, déjà. Mais ça sera une image de toutes les vies si on continue comme ça. Et j'ajoutais, et moi j'ai l'impression d'être dans le couloir du train et de faire des claquettes pour faire marrer les gens autour de moi et pour passer le temps.
Train, ça me fait penser à une scène magnifique, je ne sais plus si c'est dans Manhattan ou Stardust Memory d'un certain Woody Allen, où il est dans un wagon. On dit wagon parce qu'on est en Belgique, on peut dire wagon.
Oui, moi, pour moi, c'est wagon parce que j'ai...
C'est Michel Drucker.
Non, pas du tout. Ça date de mon enfance.
L'association de ces deux syllabes donne le mot wagon.
J'avais des parents qui étaient très pointilleux là-dessus. En plus, j'ai fait l'INSAS, cours de théâtre, j'ai appris... J'ai joué Brecht. Alors, les Français disent Brecht, oui. Et j'avais un manuel de prononciation qui était de Louis-Philippe Camens, et qui disait tous les pièges à éviter, tous les écueils. Il insistait sur le fait que l'on devait dire Édipe et Ésophage, et non Œdipe et Ésophage, ce que disent tous les Français. Mais il y a des combats comme ça que je ne mène plus.
Did anybody read on the front page of the Times that matter is decaying? Am I the only one that saw that? The universe is gradually breaking down. There's not going to be anything left.
Donc, personnellement, je dis wagon, mais en fait, on dit ce qu'on veut. C'est le même véhicule, finalement.
Et fuchsia ou fuchsia?
Pour la couleur, oui. Fuchsia, je dirais. Mm-hmm. Non?
Et là, bam, il prend son exo-cerveau.
Non, j'ai à côté de moi toujours le Robert électronique dans mon téléphone avec la prononciation. Et donc, fuchsia, il faut que je l'écrive bien, oui, c'est ça. Non, c'est fucine. Alors déjà, je ne l'écris pas bien. Alors, merde, c'est comment on fait
F-U-C-C-H-L-A.
F-U, c'est non. F-U-C-H-S-I-A. C'est ça le piège. Alors, fuchsia. On dit fuchsia.
Fais-tu la vache ? Quoi ? Fais-tu la vache ?
Tout est dans tout. Et donc, ce wagon, en fait, je ne l'ai pas pris, mais c'était Woody Allen dans un de ses grands films. Je sais qu'on ne peut plus dire ça, mais je m'en fous. Hein, voilà. Et il est dans un wagon où tout le monde se fait mais royalement chier. Quoi. Les filles sont moches, les gens ont l'air de s'ennuyer, c'est la déprime et tout. Et à un moment donné, il y a une gare de triage, et je crois qu'il quitte New York, évidemment, ça ne peut être que là, et passe à un autre wagon où là, c'est la fête, les filles sont jolies, les gens ont l'air joyeux, ils se parlent, c'est la méga teuf, et évidemment, voilà, ça nous rappelle notre condition humaine, et lui, il reste dans son petit wagon, s'en va, et les autres, voilà. C'est une autre sorte de wagon, je ne sais pas pourquoi je raconte ça.
Non, si,
je sais pourquoi. Parce que il faut parler quand même indépendamment. J'ai lu que M. Geluk était communiste. Est-ce que c'est vrai? Et donc j'essaye de ramener la scène à cette radio familiale qui aurait peut-être pu créer des envies auprès du petit Philippe de devenir conteur d'histoire. Est-ce qu'il est plutôt Woody, Allen, Groucho, Marx? C'est quoi le créateur qui aurait fait naître cette graine de raconteur d'histoires, si possible drôle malgré le drame de la vie?
Alors, revenons, rembobinons de 30 secondes dans la question. Monsieur Gueluc était militant communiste. Il s'agit de mon papa.
Oui.
Oui, mais c'est pas Monsieur Gueluc, c'est moi aussi. Donc mon père, effectivement, était militant communiste. Il n'a jamais été inscrit au parti, mais il a dessiné beaucoup pour le drapeau rouge à l'époque. Il a créé des... Il était dessinateur entre 1946 et 1953, et il a créé énormément d'affiches sur le pacifisme, des appels à la solidarité, etc. Et donc c'était un homme passionné, épris de justice sociale, de fraternité, de pacifisme. Et c'est ces belles valeurs qu'il m'a transmises. Plus que de rester dans la ligne du parti et du dogme soviétique. Il avait un appétit, un amour de la culture russe. Il lisait tous les grands auteurs. Et puis il est devenu distributeur de films et il a distribué en Belgique les films des pays de l'Est. Et donc moi, mon enfance est un mélange improvisé de cette culture-là, de musique russe, parce qu'on écoutait beaucoup de musique, et populaire, et classique, mais jamais de variété de jazz ou de pop à la maison, sur l'électrophone familial. Si, un disque de chansons françaises, il y avait tout de même Potemkin de Jean Ferrat.
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un mot?
Mais là, ceci explique cela.
Voilà, c'est obligé. Et sinon, c'était les chœurs de l'Armée Rouge, et sinon, c'était que des disques de la marque Melodia russe ou Supraphone tchécoslovaque. Enfin, c'était vraiment très, très orienté. Pas de télévision à la maison, jamais vu un Walt Disney de mon enfance, jamais bu une goutte de Coca-Cola, parce que tout ça venait du mauvais côté, évidemment, ça venait de l'Ouest, et on m'expliquait que tout ce qui était bien venait de l'Est. Et en même temps, il m'a initié, il m'a ouvert les yeux sur des merveilles artistiques qui allaient de Pierre Soulages à Vasarely, quand Vasarely est apparu, de Follon et ses merveilleuses aquarelles des années 60, à Steinberg, le dessinateur génial américain d'origine roumaine, à Topor, à Arakiri, à Sempé, dont il nous lisait les livres Goscinny et Sempé, le petit Nicolas, et il nous lisait ça tous les jours, à la fin du repas, le midi, et il lisait bien, et c'était magnifique. Donc il m'a ouvert les yeux aussi sur une culture occidentale, pointue, intelligente, non commerciale. Et moi, dans ma tête, j'ai dû faire un savant mélange de tout ça. La musique classique a baigné mon enfance et j'en suis encore complètement marteau. Mais quand j'ai eu 13-14 ans, j'ai commencé évidemment à écouter les Beatles et puis les Rolling Stones et puis à m'acheter des disques pop et puis à me laisser pousser les cheveux, à me laisser fasciner par toute la culture pop américaine, Woodstock et puis Warhol et puis Lou Reed, etc. Donc là, je me suis fait ma propre initiation, ma propre éducation. Et j'étais malgré tout le seul môme d'abord et puis le seul adolescent qui avait cette double nationalité culturelle.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that passion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Whiteside de Lou Reed qui a fait, nous venons de l'apprendre, partie de l'éducation culturelle du jeune Philippe Gueluc en même temps que les artistes soviétiques. Ce n'est donc pas une blague, la preuve, les acteurs et actrices russes avaient une place de choix dans sa vie, en poster, punaisé au mur de sa chambre d'adolescent.
Quand j'étais môme, j'avais punaisé au mur de ma chambre des photos d'acteurs russes, polonais et tchécoslovaques qui venaient à la maison quand ils sortaient leurs films en Belgique et qui me laissaient une photo dédicacée. Moi, j'avais 8 ans, je venais dire bonsoir, j'allais au lit et le lendemain matin, je retrouvais sur ma petite table dans ma chambre à coucher quelques photos des jolies actrices et des beaux acteurs, mais enfin qui m'émouvaient moins, avec un petit mot écrit dans leur langue que je ne comprenais pas. Oui, en cyrillique. Et j'étais le seul enfant en Belgique à avoir des photos de ces gens punaisés à mon mur. Et mes copains se foutaient de ma gueule en disant « Mais c'est qui ? Personne ne les connaît. » Eux, ils admiraient John Wayne et tous les cow-boys de l'autre côté. Et moi, je dis « Ah, mais ça, c'est machin, Globounov, Alexis, machin truc. » Alors, il y en a une, j'ai quelques photos avec elle, parce qu'elle était venue, Liva Hartmann, son prénom, je m'en souviens plus, qui était une actrice absolument sublime, Hartmannet, mais son nom n'est pas rentré dans la culture mondiale. Mais en revanche, il y a plusieurs réalisateurs de films qui sont venus présenter leurs films, qui ont dîné à la maison, etc. Et là, je crois qu'on se souvient de leur nom. Il y avait Bondarchuk, qui était le grand réalisateur de Guerre et Paix, etc., mythique en Union soviétique. Il y avait Polanski, dont on a encore parlé après. Il y avait Miloš Forman. Il y avait Andrei Tarkovsky, dont j'ai retrouvé une photo qui, lui, alors là, je l'ai rencontré, j'étais plus grand, et il m'avait fait une dédicace juste fabuleuse, en parlant des coups qu'on était allés boire ensemble à Grand Place. Et puis, il y a eu aussi André Vajda, etc. Ah oui. Donc, Oui, il y en a quelques-uns dont on se souvient 50 ans plus tard.
Tout va bien ?
Ah oui, ça va bien. Je suis descendu pour quelques instants. Là, nous sommes sur le quai de la gare de ce train dans lequel je vais remonter après, toi aussi. Je ne sais pas si on ira dans la même direction, mais ça fait du bien de s'arrêter aussi un petit peu quand on est dans le train.
Vous en avez illuminé la maturité. C'est quand même pas mal tourné, ça. Je me demande parfois comment j'arrive à pondre...
À ce stade, Alain. Pas mal, non ?
Jusque-là, ça va.
Non ?
Champlay assez.
Non.
Moi, j'ai zéro assistant, je fais tout moi-même, et donc je sors. Je vais essayer de faire du bruit en le sortant. Une boîte. Alors attention, parce que je sais qu'on pourrait... Parce que Michel Drucker, quand même, Paris, tout ça, ça n'est pas un cadeau. Mais c'est... Donc, tu ne pourras pas le garder. Mais c'est juste pour évoquer quelque chose.
Okay.
Attention, on est prêt. Et on décrit ce qu'on voit, évidemment, parce qu'on est en radiophonie.
Alors, je vois une boîte de nourriture pour chat, visiblement... Ça a l'air d'être une... Alors, si je dois continuer à décrire, ça a l'air d'être un produit un petit peu bon marché qui contient de la dinde et de l'agneau, de la volaille et du lapin. Donc, je ne sais pas combien d'animaux ont été assassinés pour nourrir Minou, mais je n'ose pas y penser.
On ouvre cette petite boîte.
Ah oui. Oui, bien sûr. Alors, attention.
Je rappelle que ce n'est pas un cadeau.
C'était un piège. Et j'y trouve... Alors, est-ce que ce serait du Pic-Pic André ? Ah non, c'est... Oh ! Waouh ! Alors ça, c'est une... C'est en latex. Ah, mais ça, c'est génial. Je ne l'avais jamais vu. C'est un des chats de ciné.